notre victoire et leur désespoir.
La première,
c'est un équilibre subtil, mais qui reflète aussi une série des attentes et des profils variés de notre société.
Les clés.
On subit une défaite sévère, et donc ça impose une remise en question, une remise en question des coprésidents.
La question est simple, qui va payer ?
Arnaud Roysen.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour le troisième épisode de notre radiographie du paysage politique un an après la mise en place de l'Arizona. Pour ce numéro, on va surtout se concentrer sur les partis de gauche francophones rejetés dans l'opposition suite aux dernières législatives et qui ont surtout capitalisé toute cette année sur la contestation des mesures prises en matière de chômage, de pension ou encore de détricotage du statut des fonctionnaires. Mais au-delà de cette opposition aux mesures décidées par la droite et le centre droit, que propose la gauche aujourd'hui ? Quel est le projet ? Quelle est l'alternative proposée sur le socio-économique ? Quel contre-discours aussi dans la guerre culturelle ? C'est tout cela que l'on va prendre le temps d'explorer dans cet épisode.
La première, les clés.
C'était le 14 octobre 2025 à Bruxelles, de 100 à 150 000 personnes dans les rues pour dénoncer les politiques menées par l'Arizona. Point d'orgue dans un long chapelet de mobilisations, de manifestations, de grèves qui ont marqué toute l'année, qui continuent d'ailleurs suite aux mesures décidées par le gouvernement de Weaver.
On est en train de détricoter et de perdre tout ce pourquoi les anciens se sont battus.
Dans le secteur commerce, les femmes ne reçoivent que des temps partiels. Or, ici, le nouveau gouvernement Arizona parle d'annualisation du temps de travail. Et c'est un scandale parce que c'est les femmes qui vont être le plus touchées.
Et moi, ce qui me fait vraiment aussi mal au cœur, c'est la pause qu'ils veulent mettre sur le climat. Qu'est-ce qui va rester pour nos enfants ? C'est la question que je me pose.
Alors forcément, les partis de gauche dans l'opposition au fédéral, mais aussi en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles, se sont fait les relais de cette très vive contestation, à commencer par Paul Magnette, président du Parti Socialiste.
Ce que nous constatons tous les jours dans notre travail d'opposition, c'est que la droite ne sait pas comment les gens vivent. Que va faire la caissière de Cora, qui a 58 ans, qui a travaillé depuis 35 ans et qui, si elle n'a pas trouvé un boulot dans 2 ans, n'aura plus droit au chômage et n'aura même pas droit au CPAS parce que son mari travaille. Comment cette famille qui vit à 4 avec un peu plus de 4000 euros aujourd'hui va faire pour vivre demain avec à peine 2500 euros? Comment les policiers, les pompiers vont-ils assurer notre sécurité en travaillant jusqu'à l'âge de 67 ans?
Au PTB, le discours de Raoul Edebo est sensiblement le même, avec, dans le viseur, la flexibilisation du travail et l'enjeu des pensions.
Ils veulent nous presser comme des citrons. Ils veulent faire travailler tout le monde plus longtemps, tout en diminuant le montant de nos pensions. Et c'est pas tout, chers amis. Ils veulent aussi bloquer les salaires jusqu'en 2027 et supprimer progressivement le sursalaire pour le travail de nuit ou les heures supplémentaires.
Et chez Écolo, on tapait sur les mêmes clous, mais avec une attention particulière aussi aux questions environnementales et climatiques, face à un gouvernement Arizona jugé bien trop peu actif face au réchauffement de la planète. Écoutez ce que disait Samuel Cogolati au moment de la dernière COP.
C'est la gêne nationale. Depuis 2018, tous les premiers ministres belges avaient assisté à ce grand rendez-vous climatique mondial. Aujourd'hui, Bart De Wever est aux abonnés absents. Et donc effectivement, nous nous inscrivons aujourd'hui avec la Belgique dans le rang des coalitions fossiles. C'est une honte. C'est une coalition aujourd'hui de l'Arizona rétrograde.
Bref, que ce soit dans les studios, radio et télé, dans les meetings, sur les réseaux sociaux, l'opposition de gauche n'a pas ménagé ses coups face au gouvernement fédéral, mais aussi face au gouvernement wallon et francophone. Et cela semble payer dans les sondages. À l'exception notable d'Écolo, mais ça, on y reviendra dans notre prochain épisode, PTB et PS tire profit de leur opposition concentrée sur l'ANVA, l'EMR et les engagés. Ainsi, dans le dernier baromètre RTL le soir, le PS frôlait les 30% en Wallonie contre 22% aux dernières élections. Le PTB lui aussi gagnait 8 points côté Wallon. À Bruxelles, le Parti du Travail serait même numéro 1 dans les intentions de vote, toujours selon ce sondage réalisé en décembre. Mais pour autant, ces sondages ne suffisent pas à dissiper les doutes à gauche. Car en 2024, la victoire de la droite a été nette et s'inscrit dans une évolution de société plus large qu'on retrouve aussi bien au-delà de la Belgique, d'ailleurs, et face à laquelle les partis de gauche peinent à trouver une réponse.
On doit pouvoir convaincre qu'une alternative est possible.
C'est pour cela d'ailleurs que le PS a lancé un grand chantier de refondation annoncé sans tabou et qui est toujours en cours. Ecolo aussi a tenté un aggiornamento, mais qui s'est perdu dans le déchirement de sa coprésidence, tandis que le PTB lui continue sa course de fond sur ses fondamentaux. Et une question se pose en filigrane de tout cela. Pourquoi la gauche peine-t-elle aujourd'hui à convaincre sur un projet ? Y a-t-il d'ailleurs un projet, une réponse également à la guerre culturelle menée aujourd'hui à droite ? C'est tout cela que nous allons maintenant explorer. Et pour ce faire, on accueille François Brabant. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef et fondateur du magazine Wilfried qui raconte la politique belge. Alors on va commencer avec vous sur ce constat, hein, même s'il y a ce rebond dans les sondages en ce moment, on vient de le dire, qui s'appuie sur la colère et la déception d'une partie de la population face aux mesures prises par l'Arizona notamment. On peut dire que la gauche est en difficulté en ce moment, chez nous, mais pas seulement chez nous en Belgique d'ailleurs.
Oui, c'est un phénomène mondial, en tout cas pour les parties du monde où le clivage gauche-droite veut dire quelque chose, ce qui déjà restreint un petit peu le champ d'observation. Je trouve que la séquence qu'on vient d'entendre l'illustre très bien. Ce à quoi on assiste, c'est vraiment un retour en force du débat gauche-droite et de l'affrontement gauche-droite, alors que dans les années 90-2000, on avait l'impression qu'il était un peu passé au second plan en tant que grille de lecture de l'actualité. Et en fait, ça nous oblige presque immédiatement à se demander c'est quoi la gauche. Et là, je me souviens toujours de ce que disait mon prof d'histoire en sixième secondaire, c'est quand il y a des heurts dans une manifestation, la personne de gauche va avoir tendance à voir la violence commise par les policiers, alors que la personne de droite va avoir tendance à voir les problèmes causés par les manifestants. Alors c'est un peu schématique de le dire comme ça, mais je trouve que ça reste une belle image. Et si on veut être un peu plus peut-être théorique, c'est quoi la gauche ? On peut dire que c'est peut-être deux choses. C'est d'abord de rechercher des solutions collectives aux problèmes de société plutôt que des solutions individuelles. Et alors d'autre part, c'est, je dirais, peut-être un refus de la loi du plus fort, ou pour le formuler en sens inverse, c'est une inclinaison à plutôt prendre toujours parti pour le plus faible. Ça, c'est la gauche aujourd'hui. Et cette gauche-là, elle est en difficulté en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud.
Et ça, on peut l'expliquer comment ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plutôt la droite qui semble tenir le bon fil politiquement ? Sur quoi est-ce que ça repose en fait dans nos sociétés ? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, François Brabant ?
Alors, ça repose sur plein de choses. Quand j'entends votre question, j'ai un souvenir qui me vient. C'était Philippe Mouraud, l'ancien vice-premier ministre. Au moment où il présentait un de ses livres, il disait « La politique, ce sont des séquences, mais c'est aussi un film. » Alors qu'en fait, on a tendance à ne voir que les séquences en ignorant celles qui ont précédé. Alors aujourd'hui, on est dans quelle séquence ? Aujourd'hui, en Belgique francophone, je pense qu'il y a deux éléments majeurs. C'est, d'une part, on est toujours dans la séquence post-élection de 2024 qui se sont traduites par une fête cuisante, historique, du Parti socialiste qui dominait la scène politique belge francophone depuis un siècle. Et alors, d'autre part, la séquence actuelle est marquée pour la première fois depuis très 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 longtemps, on a en Belgique des personnalités politiques dominantes, Georges-Louis Boucher au sud, Bart De Wever, Theo Franken au nord, qui contestent frontalement, radicalement le modèle belge. L'idée que notre modèle, notre État est en grande partie social, et ça c'était le grand acquis de la gauche, que ce soit la gauche socialiste ou la gauche chrétienne, En fait, cet état social, il est vraiment contesté radicalement, frontalement, par des personnalités politiques dominantes. Et ça, ça, voilà, ça imprègne la séquence dans laquelle on est. Mais en fait, cette séquence-là, elle-même, elle s'insère dans un film qui est, depuis le début des années 80, c'est une individualisation galopante. C'est la société de consommation, c'est toujours plus d'individualisme. Et en fait, voilà, moi j'avais dans le tout premier numéro de Wilfried, en 2017, on avait interviewé Paul Magnette, qui était alors ministre-président wallon, et il disait « On n'a jamais été dans une société aussi à droite, c'est terrible ». Ça, c'était en 2017. Et c'est vrai, en fait, on est dans une forme de droitisation générale. Je crois que sur le site de la RTBF, il y a une interview qui date de 1985 avec André Kohls, ancien président du Parti socialiste, des archives de la Sonuma. Et il parle comme ça, il dit « le règne de l'argent roi, les fausses valeurs, on a fait croire, il dit au peuple, que si on ne changeait pas tous les 5 ans la cylindrée de sa voiture, alors on n'avait pas réussi sa vie, et que pour réussir sa vie, il faut peut-être écraser les autres ». Et en fait, en creux, on voyait bien une forme aussi de un côté désemparé d'André Kohls, qui était une figure légendaire de la politique belge, et qui, à la fin de sa carrière, en fait, c'est comme s'il ne comprenait plus bien le logiciel, en fait, de la population belge. Et quand j'ai vu récemment cette séquence sur le site de la Sonuma, je me disais, mais en fait, c'est dingue, parce que ça date de 1985, et il n'avait encore rien vu. Parce que ce qui est arrivé depuis lors, évidemment, c'est la révolution numérique qui a encore, elle aussi, décuplé cette tendance à l'individualisme dans la société. Parce que quand on commande tous son plat de nourriture en ligne, son abonnement Netflix, etc., forcément, ça fait qu'on est beaucoup plus séparés les uns des autres et moins dans des logiques collectives.
Donc ça, c'est une trame de fond. Et à vous entendre, ce qui s'est passé en 2024 dans les urnes, c'est pas une anomalie du tout, c'est pas sans doute un phénomène transitoire, c'est plutôt le reflet en politique d'évolutions qui sont là, profondes, dans une dynamique de société. J'ai l'impression qu'il y a quand même aussi quelque chose qui s'est invité de plus en plus dans le débat politique ces dernières années, c'est ce qu'on appelle de manière générale un peu la guerre culturelle, et on en a déjà parlé un peu dans nos épisodes précédents, cette guerre culturelle qui est un peu difficile à résumer parce qu'elle est assez protéiforme, mais cette idée, notamment dans les partis de droite et d'extrême droite d'ailleurs, que c'est rentable de déplacer le curseur du débat sur des questions comme l'immigration, la question de la laïcité, mais surtout face à l'islam, les questions par exemple d'identité de genre. Et on a l'impression que sur ces questions-là aussi, la gauche, elle est mal à l'aise, parfois divisée, que quand le framing du débat, quand la trame du débat porte sur ces questions-là, c'est difficile aussi pour la gauche de parvenir à imposer son récit.
Oui, et ça a d'ailleurs été objectivé par des études universitaires depuis plusieurs années déjà. Je pense que c'était une étude de la KU Leuven vers 2016-2017 qui analysait la congruence. En fait, c'est un mot un petit peu barbare, mais ils avaient, par une série de méthodologies, essayé de chiffrer à quel point les électeurs de tel ou tel parti en Belgique sont en osmose avec le programme du parti pour lequel ils ont voté. Et ce qui apparaissait, c'est qu'en Belgique francophone, le parti qui avait la congruence la plus faible, c'était le Parti socialiste. C'est-à-dire, en moyenne, les électeurs du PS étaient assez peu d'accord avec le programme du PS. En tout cas, ils étaient moins d'accord que les électeurs du MR, des Colos et du CDH à l'époque. Et en fait, ce désaccord-là, ou cette marge, où est-ce qu'elle se faisait? Elle se faisait sur ces questions de migration, ces questions culturelles, ces questions éthiques. Vous voyez bien, des personnes votaient pour le Parti socialiste parce que, notamment, ils étaient très attachés à l'idée de la protection sociale, à l'idée d'une certaine solidarité, une justice fiscale. Mais sur le reste du programme, ils n'étaient pas tout à fait convaincus. Et longtemps, ça ne les a pas empêchés de voter malgré tout pour le Parti socialiste. Et ce que a réussi la droite en 2024 en Belgique francophone, mais en fait, elle y arrive à peu près partout dans le monde, en tout cas en Amérique et en Europe, c'est justement de réussir ce basculement-là, à convaincre ces électeurs populaires de d'abord voir les questions culturelles.
Oui, et ça, Jean-Benoît Pilet, dans notre premier épisode, disait que c'était un des enjeux de la guerre culturelle, c'est de mettre ces questions-là à l'avant-scène. Mais du coup, comme vous nous le dites, il n'y a pas qu'en Belgique que ça se passe. Aujourd'hui, un peu partout en Europe, la gauche est en difficulté. La droite gagne des parts de marché. Et puis l'extrême droite aussi, en particulier, parvient de plus en plus à imposer son récit, qui d'ailleurs, du coup, parfois est repris par une partie de la droite, voire au-delà dans le spectre politique. Donc ça, c'est une dynamique de fond dans laquelle s'inscrit la Belgique, la Wallonie, mais qui existe un peu partout en Europe et aux États-Unis, bien sûr, aussi.
Oui, c'est vraiment une offensive mondiale. L'extrême droite est à l'offensive. Un autre phénomène mondial, c'est cette espèce de rapprochement entre la droite démocratique et l'extrême droite, c'est-à-dire que l'extrême droite paraît moins extrême et la droite démocratique paraît plus radicale, ce qui pose justement des questions en termes d'application du cordon sanitaire, parce que la différence saute moins aux yeux que dans les années 90. Mais pour autant, je pense qu'il faut faire attention à ne pas considérer que la victoire de l'extrême droite est inscrite dans les astres et qu'on ne pourra rien y faire. Parce que on se trompe souvent en ayant une vision de la politique un peu mécanique, comme ça. Par exemple, on se dit, ah bah oui, en Wallonie, il y avait un fleuve, la Meuse, il y avait du charbon dans le sous-sol, donc ça a produit l'industrie sidérurgique, donc ça a produit des grands ensembles d'ouvriers, donc les syndicats, donc une victoire du Parti socialiste dominant, dans un État où la capitale, à Bruxelles, l'élite parlait français, donc ça a produit une réaction en Flandre, donc un grand mouvement nationaliste et la NVA dominante en Flandre. Comme si tout ça était une suite logique d'événements voilà, presque mécaniques. Alors que, fondamentalement, la vie politique, c'est pas ça. Ce sont des personnes qui luttent, qui militent, qui font des choix. C'est une série d'embranchements avec des dirigeants qui prennent des décisions, qui auraient pu prendre d'autres décisions. Si, par exemple, et Raoul Edebo, pour tout marxiste qu'il soit, le dit souvent, il dit, si des années 1910, 1920, il n'y avait pas des personnes qui s'étaient mouillées, qui avaient sacrifié même leur vie personnelle au nom de certains idéaux de gauche, peut-être que le mouvement ouvrier ne serait jamais devenu si fort en Belgique, on n'aurait pas eu la sécurité sociale. Et donc, à l'inverse, c'est sûr que, bien sûr, il y a plein de paramètres aujourd'hui qui sont favorables à des succès de l'extrême droite, mais ils ne sont pas écrits d'avance.
Oui, ce n'est pas une fatalité. Mmh. Alors, il y a quand même un élément que les gauches, un peu partout en Europe, regardent de près, et d'ailleurs, encore récemment, Paul Magnette y faisait allusion dans une interview sur nos antennes, c'est ce qui se joue en Espagne, parce que l'Espagne semble un peu à contre-courant pour le moment, avec un gouvernement dirigé par les socialistes, qui mène une vraie politique avec des marqueurs de gauche, et on va s'y intéresser avec Sarah Pousset.
Pedro Sánchez est devenu Premier ministre en 2018. Le socialiste s'est associé avec le nouveau parti de gauche radicale, Podemos, et puis son successeur, la coalition Sumar. Des gouvernements minoritaires, mais qui ont pu compter sur le soutien de partis indépendantistes, notamment les Catalans. Cette alliance de gauche peut se targuer de plusieurs victoires. D'abord, l'économie espagnole est en très bonne santé, avec une croissance de près de 3% en 2025. Le déficit est en recul et même devenu inférieur à celui de l'Allemagne. Les investissements publics se sont démultipliés ces dernières années. Le salaire minimum espagnol a augmenté de 61% par rapport à 2018. Une loi travail défendue par les communistes a redonné du pouvoir de négociation collective aux syndicats, a rétabli le CDI comme contrat par défaut et a permis de mieux protéger les travailleurs contre les licenciements. Le pays a aussi réformé son code pénal et maintient une politique ferme pour lutter contre les violences faites aux femmes. En matière de migration, Pedro Sánchez essaye de lutter contre le racisme en propageant un discours positif sur la migration, en rappelant notamment son importance économique.
Sans eux, des secteurs si importants, par exemple lors de la pandémie, comme l'agriculture, la construction, alors que nous voulons à présent construire plus de logements sociaux, ou l'hôtellerie, ces secteurs s'effondreraient, puisque les migrants représentent déjà 25 à 50% des travailleurs.
Le gouvernement a d'ailleurs organisé plusieurs vagues de régularisation de sans-papiers, dont encore 500 000 fin janvier. En matière environnementale, Pedro Sánchez a fortement développé les énergies renouvelables, mais il faut dire que le pays revenait de très loin et il est encore très éloigné des objectifs de neutralité carbone. Sur la scène internationale, c'est un fervent soutien de la Palestine. Il n'hésite pas à s'opposer à Donald Trump, mais aussi à contester la politique d'armement de l'OTAN.
Para el gobierno de España no tiene sentido comprometerse.
Pour le gouvernement espagnol, ça n'a aucun sens de s'engager à dépenser 5% de notre PIB en défense. Si on le faisait, ça nous obligerait à trahir nos engagements et à gaspiller des milliards d'euros. Et puis, paradoxalement, ça ne nous apportera pas plus de sécurité.
Tampoco nos haría estar más seguro.
Mais l'Espagne doit aussi affronter une grave crise du logement. Les loyers sont impayables et poussent de nombreux jeunes à rester chez leurs parents. Le taux de chômage, même s'il a été divisé par deux en 10 ans, reste l'un des plus importants d'Europe. Et puis surtout, le pays est confronté à une crise politique. Plus aucun budget n'a été voté depuis 2023, faute de majorité parlementaire. Et puis des affaires de corruption, mais aussi de harcèlement sexuel, dans l'entourage du Premier ministre, entachent l'image de Pedro Sanchez. Lors des dernières élections régionales, les socialistes ont perdu des sièges au profit de la droite et de l'extrême droite.
Alors, je le disais, on regarde beaucoup, évidemment, à gauche, ce qui se passe en Espagne, avec de vrais marqueurs de politique de gauche, on l'a entendu dans la séquence, mais pas forcément un succès électoral attendu d'office dans la suite, puisque là, les sondages sont plutôt mauvais, les résultats sur des scrutins régionaux sont plutôt mauvais aussi. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer, du coup, pour la gauche, de ce qui se passe en Espagne, François Brabant ?
Je dirais que moi, c'est un pays que je connais assez bien, j'ai dû y aller une trentaine de fois ces 20 dernières années. Ce qui me frappe le plus, c'est une forme d'atmosphère, d'état d'esprit. Quand on va en Espagne aujourd'hui, on le sent physiquement, qu'il y a un état d'esprit positif, confiant dans l'avenir. Alors que là, si on va en France et même en Italie, ça saute aux yeux. Il suffit de pénétrer dans une librairie en France, tout de suite, ça vous saute au visage, cette espèce de côté rance, négatif, un peu aigri. Donc voilà, il y a une atmosphère différente aujourd'hui en Espagne. Est-ce que la victoire de la gauche est la cause ou la conséquence de ça ? Je n'en sais rien, mais c'est déjà intéressant de s'arrêter là-dessus, parce que si on regarde aujourd'hui les autres grands pays où la gauche gagne, il n'y en a pas tant que ça, donc on a vite fait le tour. Mais par exemple, en Amérique latine, il y a le Mexique, avec une présidente de gauche, Claudia Sheinbaum. Il y a eu le Brésil, où Lula a gagné face à l'extrême droite. La Colombie, victoire historique, premier président de gauche dans l'histoire du pays. Alors on verra si ça va être les élections cette année, si la gauche réédite cet exploit. Alors qu'en Argentine, au Chili, en Équateur, la gauche perd. Il y a eu Zoran Mamdani, maire de New York. Il y a eu, dans une certaine mesure, les élections aux Pays-Bas avec le parti de centre-gauche, D66, parti libéral progressiste, qui a gagné contre toute attente face à l'extrême droite. Et si je prends ces cinq pays-là, donc Mexique, Brésil, Colombie, Pays-Bas, New York, c'est pas un pays, mais enfin, il y a un trait qui, je réfléchissais avant de venir, un trait qui m'apparaît vraiment très, très commun. C'est justement la tonalité optimiste, positive de toutes ces personnalités-là. Et je me suis amusé à regarder, même sur Instagram, on peut faire l'expérience soi-même, les discours de Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique, ou de Rob Jetten, le futur premier ministre des Pays-Bas, ou de Zoran Mamdani, le maire de New York. Pour moi, le mot qui revient, c'est espoir. C'est la force politique de l'espoir. C'est ça qui, en fait, aujourd'hui soulève les foules. Et hope, l'espoir, c'était aussi le mot-clé de la première victoire d'Obama en 2008. Et je pense que la gauche, elle ne pourra gagner, elle est à contre-courant aujourd'hui, ça c'est sûr. Le mainstream, il ne va pas dans le sens de la gauche, mais elle ne pourra gagner que si elle parvient à redonner espoir. Et là, il y a un vrai, je dirais, carrefour stratégique, pas seulement en communication, mais un vrai carrefour stratégique pour la gauche, parce que aussi toutes les études de communication politique montrent que ce qui fait basculer une élection, ce qui fait basculer un pays, c'est les indécis. Il y a souvent des gens tout à fait convaincus d'être de gauche, tout à fait convaincus d'être de droite, mais il y a une masse plus ou moins grande d'indécis, et c'est ça qui fait basculer. Et si on revient sur le Mexique ou sur les États-Unis, ce sont deux pays aujourd'hui où il y a une extrême droite aussi, très très forte, très virulente, très agressive. Mais Zoran Mamdani ou Claudia Sheinbaum n'ont pas fait le pari d'être dans, de mettre en avant, en tout cas c'est pas la première chose qu'ils mettent en avant, le côté antifasciste. Ils le disent, hein, ils le sont, il n'y a pas de souci, mais résistance, s'opposer au retour de la haine, non, non. D'abord, la première chose qu'il dit, c'est « Demain, grâce à nous, vous allez vivre dans un pays plus prospère, plus égalitaire, plus agréable à vivre. » Et ça, je pense que c'est vraiment cette leçon de l'espoir, c'est quelque chose à avoir en tête.
Et on peut rapprocher ça d'ailleurs à l'inverse de ce qui s'est passé à l'élection de Trump aux États-Unis, où là, les démocrates avaient plutôt misé justement sur le péril de voir Trump revenir, le péril pour la démocratie, et pas spécialement un discours d'espoir optimiste sur le socio-économique, et où ils ont perdu. Donc ça tendrait à prouver un peu ce que vous analysez là sur la question de l'espoir et de la dimension positive. Reste quand même un enjeu, c'est de savoir si aujourd'hui, dans le contexte socio-économique d'une économie mondialisée, où en plus de ça, il y a des grosses difficultés budgétaires, une pression importante sur les finances publiques, où il y a des tensions internationales très fortes, si cet espoir suscité peut être confirmé après dans la politique qui est menée. J'ai l'impression que c'est ça aussi qui va se poser comme question. Par exemple, à New York, il y a un espoir très important à gauche suscité par Mamdani, à voir s'il va pouvoir maintenant réaliser cette politique, au risque sinon d'avoir un retour de manivelle qui pourrait être très rude, non ?
Oui, parce qu'il n'y a pas l'espoir déçu, évidemment, là, ça devient une force extrêmement négative. Et là, je dirais que forcément, les éléments de conjoncture économique entrent en ligne de compte. C'est beaucoup plus facile. On parlait du Mexique, c'est un pays qui aujourd'hui est plutôt dans une phase de développement économique. Pareil pour le Brésil. Et donc, c'est plus facile de dire à ses électeurs, ben, votre vie, elle sera a priori meilleure que celle de vos parents. En Europe, on est dans un autre cas de figure. Mais malgré tout, on voit bien qu'il y a... Paul Magnette disait, par exemple, c'est une phrase qu'il dit souvent, la gauche aujourd'hui, donc le président du Parti socialiste, la gauche n'a pas un problème de doctrine, elle a un problème de stratégie. C'est aussi ça qui apparaît, en fait, des idées, il y en a à gauche. Et Paul Magnette lui-même a écrit beaucoup de livres sur le sujet. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, la gauche est dans le brouillard de savoir que faire. Mais, par contre, ce qu'elle doit trouver, c'est un chemin pour à la fois gagner électoralement, mais aussi asseoir sa victoire électorale dans une forme de moyen terme.
Alors justement, un mot sur la situation spécifiquement belge, François Brabant. On sait qu'à gauche, on a plusieurs partis en Belgique. Écolo, on va beaucoup en parler dans notre prochain épisode. Il y a aussi le PS et le PTB. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de bouger en Belgique aujourd'hui dans les relations justement entre ces deux partis-là? On a l'impression que jusqu'ici, il y avait plutôt un mur entre les deux où le PS disait bah, « nous, on est crédible parce qu'on peut aller au pouvoir et qu'on mène des réformes ». Le PTB ne l'est pas parce que lui, ça reste un parti tribunicien d'opposition. Est-ce que dans le contexte là, aujourd'hui, ces lignes-là, elles sont en train de bouger quand on voit notamment qu'au niveau communal, on a des majorités qui se sont mises en place? Est-ce que ça change l'équation à gauche aujourd'hui?
Ça change vraiment beaucoup, je pense. Alors c'est encore un peu tôt pour en observer les effets, mais donc il y a à Mons en Wallonie, à Forêt et à Molenbeek à Bruxelles, sont les trois villes où les deux partis sont en majorité ensemble. La situation de Molenbeek est assez spécifique, mais je pense que Forêt et Mons ont permis de faire tomber des a priori de part et d'autre. J'ai eu beaucoup de retours en ce sens. Il y a plus de confiance mutuelle. Et la grande question, c'est est-ce que ces exemples-là, Forêt, Mons, peuvent être extrapolés dans une majorité régionale ou fédérale? Là, c'est encore très très tôt parce que, et on va vite être sur cette question du projet, le PS aujourd'hui, il est en train de réfléchir sur les causes de sa défaite majeure de 2024. Il est engagé dans un processus de refondation idéologique. Et sans préjuger de la suite, je pense que ce qui est en train de se dessiner, c'est une forme de recentrage au centre-gauche du PS qui, à mon avis, fait une double analyse. D'une part, il a surtout perdu en 2024 dans les petites villes, Waremme, La Louvière, Tournai, Hatt, des villes moyennes comme ça qui ont longtemps voté socialiste et qui cette fois-ci, cet électorat là de classe moyenne, périurbaine, s'est détourné. Et pour le reconquérir, il faudra revenir avec quelque chose qui lui parle et qui n'est pas trop à gauche. Et d'autre part, il y a l'analyse aussi qu'en 2024, Paul Magnette avait démarré sa campagne sur l'idée de la réduction du temps de travail. Et pour le coup, là, on ne pouvait pas lui reprocher de venir avec un vrai projet idéologique. Mais je pense que là aussi, ça n'a pas, en tout cas, ça n'a pas été validé électoralement. Donc, au PS, il y a ce processus d'interrogation idéologique qui risque d'aboutir à une forme de recentrage. Et au PTB, 2026, pardon, va être une année importante vu que c'est l'année de leur congrès qui a lieu tous les 5 ans. Alors, chez les marxistes, les congrès, c'est une affaire sérieuse. Ça s'étale sur plusieurs mois. Mais plusieurs personnes me disent au PTB, en fait, ça va être un moment important, ce congrès, parce que l'idée va être de proposer vraiment c'est quoi notre projet de société, notre projet socialiste, communiste, en affirmant ce mot communiste. Parce que ce qui fait rêver les gens, ce qui va être attrayant, mobilisateur, c'est pas juste de dire résister à De Wever, résister à Georges-Louis Boucher. Ça va être aussi de proposer quelque chose qui suscite de l'enthousiasme. Manifiesta, qui est le grand moment annuel à la Côte Belge où le PTB rassemble tous ses membres. Cette année, il y avait la directrice de campagne de Zoran Mamdani, le maire de New York. Donc on voit qu'on s'inspire des exemples mutuels. Mais donc on voit aussi que ça va compliquer le fait pour le PS et le PTB de travailler ensemble, parce que, à mon avis, le Parti socialiste se dit, avec notre projet plus de centre-gauche, peut-être un peu renouvelé, on redevient compatible avec les engagés, où là, il y aura peut-être une distanciation par rapport à Georges-Louis Boucher au MR, alors que le PTB risque de réaffirmer son projet révolutionnaire. Donc, c'est pas sûr que, même si la méfiance est tombée, il y ait un accord entre les deux évident.
Et ça nous ramène à quelque chose qu'on peut voir alors du coup un petit peu partout en Europe, là aussi, et on va terminer avec ça, François Brabant, c'est que la gauche, elle est assez fortement divisée aujourd'hui et qu'elle a du mal à s'unir face à une droite qui, elle, n'a pas trop de problèmes à s'unir et même parfois maintenant à imaginer s'unir avec la droite de la droite vers l'extrême droite. Donc cette division-là aujourd'hui, c'est un des ingrédients de l'affaiblissement de la gauche.
Oui, mais il y a peut-être, on a parlé là de l'opposition entre la gauche social-démocrate et la gauche marxiste, pour faire bref. Mais en fait, il y a une opposition qui est peut-être encore plus forte aujourd'hui. C'est entre la gauche institutionnelle, la gauche des partis, des syndicats, des mutuelles, et beaucoup de personnes qui ont une sensibilité de gauche, mais qui ne se reconnaissent plus dans les institutions, qui se reconnaissent davantage dans le monde associatif, culturel. Chez ces personnes-là, il y a une révolte très très grande sur des questions comme la Palestine, comme les questions de féminisme, de racisme, et il y a un rejet de la politique institutionnelle. Et donc là, je pense que l'enjeu va être pour le PS et pour le PTB de donner un débouché crédible, réaliste, à cette colère, cette révolte qui fulmine aujourd'hui dans une partie de la gauche associative.
Et cette question-là, elle doit aussi tarauder les écologistes, particulièrement en difficulté depuis les dernières élections, avec en plus, pour les écolos francophones, une crise interne profonde. Mais ça, ce sera pour notre prochain épisode. Pour celui-ci, on est au bout. Merci à François Brabant pour le temps consacré. Je ne peux évidemment que vous recommander de lire régulièrement et pourquoi pas de vous abonner au magazine Wilfried, le magazine qui raconte la politique au sens premier et au sens large du terme. Je vous rappelle aussi que cet épisode s'inscrit dans une série en 5 numéros, que les autres épisodes sont à retrouver sur Ovio ainsi que sur vos plateformes de téléchargement. Merci à Laurent Nélissen pour la réalisation sonore de cette émission. À la préparation, Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Et si ce contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à le faire connaître et à le diffuser autour de vous.